Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette curiosité du dimanche. Ça va Sidonie ?
Ah, ça va bien Thomas, être curieux tous les jours de notre vie, mais quel bonheur. Dans la seconde
partie,
c'est une
discipline en fait.
C'est une discipline, hein, c'est ça. Dans la seconde partie de l'émission, on fera un voyage dans le temps à la rencontre d'un personnage emblématique du XVIIIe siècle, c'est Giacomo Casanova.
Et oui, mais qui était-il vraiment ? Un libertin, tout le monde le sait, mais c'était aussi un aventurier, un écrivain, beaucoup d'autres surprises à venir tout à l'heure.
Et tout de suite, une enquête, une plongée dans l'enfer de l'industrie porno.
La curiosité est un vilain défaut.
Durant toute cette enquête, on m'aura rapporté les rumeurs les plus folles. Toutes les mafias du monde ont été évoquées. L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et même l'Asie.
RTL.
Finalement, l'industrie du X aujourd'hui, c'est ça. Des grandes compagnies informatiques qui génèrent des milliards de visites et qui n'ont aucune connexion avec la main-d'œuvre en bout de chaîne.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous en croisez, vous, beaucoup, des gens qui disent consommer du porno, des vidéos pornographiques sur Internet ? Ben moi, presque jamais. Et pourtant, chaque année, plus de 100 milliards de vidéos pornographiques sont regardées dans le monde. Comment l'industrie pornographique peut-elle produire autant de contenu X ? Dans la curiosité, on vous emmène dans les coulisses de ce business pas beau à voir. On est ravis de vous accueillir au micro de la curiosité. Vous êtes réalisatrice, journaliste et productrice de cinéma. Vous êtes une ancienne actrice de films pornographiques également. Pourquoi vous êtes partie enquêter dans tous ces pays, en Europe et dans le reste du monde, sur ce sujet ?
Bah déjà, j'ai envie de dire qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et je suis même très surprise que personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Je pense qu'il fallait commencer à mettre les mains dans le cambouis. Il n'y avait pas énormément de gens qui pouvaient le faire. Parce qu'il me semble que c'est une enquête qui est très difficile à mener quand on n'a pas soi-même fait partie de cette industrie. Parce qu'il y a une forme de loi du silence, on va dire. Il y a des confidences qui sont assez compliquées à obtenir. Je pense que j'ai réussi à obtenir certains témoignages uniquement parce que j'avais fait partie de cette industrie, parce qu'on me faisait confiance.
Et personne aussi, ne pouvait ou personne n'osait s'attaquer à un tel sujet ? Parce qu'il y a des mafias, il y a du business, il y a énormément d'argent en jeu.
Je pense pas que ce soit une question d'oser, je pense que c'est une question d'avoir aussi l'esprit parasité par une forme peut-être de panique morale. La plupart des documentaires et des reportages que j'ai eu l'occasion de regarder sur la question du porno, en général, ils sont extrêmement mauvais. Parce que soit ils sont goguenards, ou alors au contraire, ça va être le misérabilisme total, et ça va être ces pauvres femmes, le porno, c'est le viol, etc. Finalement, il y a très peu de gens qui ont abordé la question pornographique sans émotion, un peu comme je peux le faire, c'est-à-dire de façon rigoureuse.
Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe. Première impression pour vous, le business du porno aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui que vous avez connu.
Non.
Vous, c'était quoi, dans les années 90 ?
90, voilà, oui, fin des années 90. Non, effectivement, ce milieu a connu une très grande mutation économique, mais je dirais un petit peu comme tous les secteurs avec l'arrivée d'Internet. On l'a vu, on le voit avec les chauffeurs de VTC, on le voit avec... Aujourd'hui, il y a une forme d'ubérisation du travail qui, justement, vient de la plateforme Uber.
Donc, ça veut dire précarisation du travail, c'est ça ?
Précarisation du travail, paupérisation de tous ces secteurs. Et je dirais que le milieu du X, ça a toujours été un peu le reflet exacerbé d'une société, tant d'un point de vue rapport homme-femme que d'un point de vue relation au travail, que d'un point de vue économique aussi au niveau des nouvelles technologies. En général, le porno a toujours été un peu précurseur de quelque chose, mais c'est aussi précurseur du pire parfois. Et en tout cas, en termes de relation au travail et en termes économiques, c'est vrai que le porno, là, en ce moment, il est en train de nous donner un vague aperçu de ce que nous attendons du reste du travail.
Oui, alors l'ubérisation, on ne va pas diaboliser, la numérisation des secteurs économiques, c'est vrai que parfois il y a une paupérisation, mais c'est aussi une facilité d'accès pour les usagers, les consommateurs, et c'est le cas aussi du marché du porno en fait. Il a explosé parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, grâce à Internet, peuvent regarder des films porno tranquillement, c'est ça l'idée ?
Mais tout est accessible 24 heures sur 24, oui. Tout est gratuit aussi. On ne demande même plus l'âge d'ailleurs, il n'y a même plus de disclaimer, il n'y a même plus besoin de rentrer sa date de naissance, tout ça c'est fini. Donc c'est vrai que la fréquentation de ces sites-là a complètement explosé puisqu'il n'y a absolument aucune restriction. Et il n'y a même plus vraiment de notion de transgression finalement. Ce n'est même pas juste un blocage, je dirais, technique qui a sauté, c'est aussi la notion de transgression qui a éclaté dans nos esprits.
Vous expliquez dans ce documentaire qu'on n'a jamais regardé autant de porno et que pourtant l'industrie du X est à l'agonie. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette concurrence justement et ces vidéos qui sont... Elles viennent d'où ? Elles sont volées ?
En fait, ces sites-là, donc, ils sont construits sur le même modèle que YouTube, en fait, qui sont des sites de streaming. En fait, ils ont fait leur beurre sur des vidéos piratées. Très clairement, ils ont mis en ligne des millions de vidéos, plus ou moins récentes d'ailleurs, parfois des vidéos qui ont plus de 20 ans, ce qui explique d'ailleurs que certaines actrices voient leur passé ressurgir, mais ça, c'est encore un autre problème. Donc, ils ont piraté des vidéos, ils ont gagné énormément d'argent en très peu de temps. À un moment, dans le film, on voit l'ancien patron de Manouin, qui est une grosse multinationale, qui parle de son chiffre d'affaires en mois. Il ne connaît même pas son chiffre d'affaires en année, parce qu'il dit que ça grossit tellement vite, de mois en mois, le chiffre d'affaires évolue. Donc c'est,
on fera d'ailleurs le portrait de ce personnage trouble tout à l'heure.
Donc c'est bien qu'il est question d'une économie qui a une croissance exponentielle. Enfin, c'est assez impressionnant.
Alors, vous êtes parti en Hongrie notamment, entre autres, à Budapest. C'est depuis longtemps la capitale du porno en Europe. Qu'est-ce que vous y découvrez là dans les derniers mois, notamment sur les conditions de travail des actrices?
Ce que je constate déjà, c'est qu'on ne leur demande pas ce qu'on leur demandait il y a encore 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'en parle même pas. Je remarque que les conditions de travail se sont dégradées. Je remarque que les conditions sanitaires aussi se sont dégradées.
Sur ce qu'on leur demande, Ovidie, pour être clair, c'est-à-dire on leur demande par exemple d'enchaîner des positions trash, hard.
En fait, les pratiques sont de plus en plus hardes et de plus en plus violentes. En fait, il y a une vraie banalisation de la violence, des strangulations. On est passé de la petite fessée à la grosse tarte dans la figure.
À la torture ?
Pas vraiment de la torture, je dirais plutôt c'est plus pernicieux que ça finalement, parce que si c'était de la torture, ce serait classé dans un domaine SM, alors que là c'est vraiment le porno classique qui lui-même a intégré des éléments de la violence.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe, c'est le thème de la curiosité et le titre de l'excellent documentaire de notre invitée, la réalisatrice Ovidie. On a dit le chiffre tout à l'heure, il est quand même faramineux, plus de 100 milliards de vidéos porno regardées dans le monde sur Internet. 95% du contenu illégal, c'est ça ?
95% du contenu passe par les tubes et effectivement, il s'agit majoritairement de contenu piraté.
Avec, vous nous l'avez dit, des conditions de tournage pour les actrices porno de plus en plus dramatiques. Parmi vos destinations, il y a eu Budapest, il y a eu Berlin, le salon du sexe de Berlin. Pourquoi il fallait y aller ? Pourquoi c'est incontournable ?
Parce qu'il se trouve que c'était un salon assez emblématique à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et il s'agissait du plus gros salon européen. Traditionnellement, c'était là que, on va dire, le gratin du X européen se retrouvait. Il y avait une cérémonie d'award qui était organisée. Et là, aujourd'hui, effectivement, quand j'y retourne, au moment de tourner Pornocratie, je ne reconnais plus personne. Je n'y vois plus de professionnels. Je vois des filles que je ne connais pas du tout, mais et que le public ne connaît pas non plus, visiblement. Je vois pas mal de misère et je vois...
Donc il n'y a plus des stars, mais des filles ou des femmes exploitées ?
Je vois beaucoup de camgirl, en fait. Je me rends compte que la camgirl a remplacé l'actrice. Je me rends compte que...
C'est quoi, une camgirl ?
Alors, une camgirl, c'est une personne qui effectue une forme de peep show 2.0, c'est-à-dire qui effectue des shows privés pour le consommateur face à sa webcam, donc en connexion directe. Parce qu'en fait, quand on regarde... On peut comparer le milieu du porno avec le milieu de la musique, qui s'est aussi effondré. Et finalement... le milieu de la musique s'est un peu rattrapé avec le contact direct avec le consommateur, par exemple avec les concerts, on va dire,
oui, avec les tournées,
le merchandising. Mais c'est quoi le contact direct avec le consommateur dans le milieu du X ? Eh bien, c'est la camgirl, effectivement, faire des prestations en direct, ou l'escorting. Mais je veux dire, il n'y en a pas des milliards d'alternatives lorsqu'on est actrice. Donc, ce qui explique que de plus en plus d'actrices se tournent soit vers ce type de show, soit vers ce type de prestations tarifées privées.
Mais le porno dans les années 90, il était vraiment beaucoup plus respectueux des femmes ?
En fait, c'est pas vraiment...
Parce que c'est pas forcément l'image qu'on en a, quoi.
C'est pas vraiment une question de est-ce que c'était plus respectueux ou pas. Je dirais que à chaque époque son porno, et on a le porno qu'on mérite. Je pense que le porno, c'est le reflet d'une société, et à l'heure actuelle, le porno, il reflète, ce que je disais tout à l'heure, notre rapport au travail, mais aussi nos rapports hommes-femmes. Je pense que...
Plus de violence, donc, c'est ce que vous nous dites.
Finalement, plus de violence, et aussi plus de cynisme, plus de mise à distance vis-à-vis des images. Je pense qu'aujourd'hui, on peut regarder beaucoup plus facilement sur un écran une femme se faire gifler, ou voire plus, qui visiblement n'a pas l'air tout à fait consentante. On peut beaucoup plus facilement la regarder aujourd'hui sur son écran Peut-être aussi parce qu'on peut plus facilement regarder des vidéos de personnes qui se font décapiter. On a cette mise à distance vis-à-vis de l'image qui est beaucoup plus importante qu'avant, il me semble.
Ovidie, dans ce salon du sexe à Berlin, vous y avez rencontré un producteur de films porno. Vincent Gresser, voici ce qu'il vous dit sur le porno aujourd'hui.
Il y a quand même quelque chose, moi, qui est un peu mon cheval de bataille et sur lequel je démords pas. C'est qu'aujourd'hui, tu as des sites qui proposent sans aucun contrôle sur l'âge, sur quoi que ce soit, gratuitement, n'importe quel gamin peut voir tout ce qui est possible de voir, et même des types de contenus que nous, on n'a jamais osé même diffuser, même à l'époque du DVD. Des choses horribles. Après, chacun met le horrible à son niveau de moralité. Et ça gêne absolument personne. C'est fantastique. C'est gratuit, c'est volé à des producteurs qui ont toujours fait attention, c'est mis en ligne, et ça ne gêne absolument personne.
Ovidie, devant cet accès facile, illimité du porno à la jeunesse, qui est quand même super inquiétant, que peuvent faire les parents ?
Les parents, malheureusement, je dirais pas grand-chose en fait. Je pense que les personnes qui doivent agir à l'heure actuelle, ce sont les personnes qui ont le pouvoir de légiférer, ce sont les personnes qui ont le pouvoir de faire appliquer les lois, parce que ces sites-là, ils agissent en toute illégalité. Je veux dire, en France, la diffusion de films pornographiques, elle est quand même soumise à régulation. Il y a une réglementation qui existe. On ne peut pas diffuser de façon libre et gratuite, comme ça, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, du porno. Par exemple, pour être diffusé à la télévision, le porno, il doit diffuser seulement après minuit. Il y a un double cryptage. La vente de DVD, pareil, est soumise à réglementation. La VOD également est soumise à réglementation. Comment est-ce qu'on explique que personne ne s'émeuve de voir ces sites diffuser du porno aux gamins ? On sait très bien que les gamins en consomment beaucoup. Même ceux qui détiennent ces sites savent que les gamins consomment beaucoup, puisque un des fondateurs de CETUM m'avait expliqué qu'à l'origine, ils avaient quand même un contrôle, une limitation d'âge, un disclaimer, qu'ils l'ont fait sauter parce qu'ils s'étaient rendu compte que ça leur faisait atteindre un plafond en termes de fréquentation. Donc ça veut dire qu'ils ont conscience, qu'ils ont besoin de la fréquentation des mineurs pour pouvoir atteindre leur taux, quoi, finalement.
Alors le site sans doute le plus connu aujourd'hui s'appelle YouPorn. Vous avez rencontré son patron actuel, c'est un trentenaire allemand, il s'appelle Fabian Tillmann, et vous allez voir à qui on le compare.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
RTL.
L'autre filon lucratif, c'est celui des livecams, une forme de peep show 2.0.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est une des offres payantes vers lesquelles les tubes redirigent les consommateurs. Les camgirls effectuent des prestations pour les consommateurs et les plateformes les mettent en relation. Même le porno n'aura pas échappé à l'ubérisation du travail.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comment le business du porno met en danger des millions de femmes, actrices, vulnérables, mais aussi des consommateurs qui l'abîment de plus en plus jeunes. C'est l'enquête passionnante de notre invitée, la réalisatrice Ovidie. Pour ce documentaire Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe, vous avez bourlingué, vous avez rencontré notamment le patron de YouPorn. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, YouPorn, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y trouve ?
YouPorn, c'est un site qui est construit sur le même modèle que YouTube, sauf qu'il diffuse des vidéos pornographiques. Alors, c'est pas le patron, c'est le fondateur.
C'est différent, fondateur.
Comment il s'appelle, le fondateur ?
Jetty, c'est un des fondateurs, en fait. Il y en a plusieurs, sauf que les autres sont plus dans l'ombre. Ils veulent pas donner leur nom. Mais Jetty, on va dire, c'est celui qui est resté dans le milieu et qui accepte de parler.
À visage découvert. Alors, YouPorn voit le jour en 2006. Au début, c'est une blague. C'est ce qu'on vous explique. Ça. L'un de ces sites les plus vus, c'est le 26e site le plus regardé au monde. Ça vient d'une blague. Pourquoi ?
En fait, c'est vrai que c'est parti. Je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte à l'origine de ce qu'ils avaient entre les mains, et ça a grandi extrêmement vite. En l'espace de quelques mois, effectivement, ils sont devenus classés, 26e site le plus fréquenté au monde. Et Jetty, quelque part, je dirais pas qu'il est touchant, parce que c'est vraiment pas le terme, mais il s'est rendu compte à partir de ce moment-là qu'il allait tuer l'industrie. Il le dit lui-même. Il dit, à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que l'industrie était foutue, qu'on était en train de l'assassiner. Et donc, il dit, le plus naturellement du monde, on est allé voir les gens d'industrie, on leur a dit, on va faire un deal, on met gratuitement en ligne vos vidéos. De toute façon, c'est soit on vous les pirate, soit on les met en ligne avec votre accord, et puis on procède à une redirection vers votre site. Voilà, c'est le deal qui a été proposé à l'origine.
Une blague qui a bien cartonné.
C'est ça, exactement.
Et alors, ce trentenaire allemand dont je parlais tout à l'heure, la Fabian Tillmann, c'est qui, lui ?
Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est que moi, j'en avais jamais entendu parler avant décembre 2012, c'est-à-dire le jour où il a été arrêté à son domicile à Bruxelles. Et à ce moment-là, la presse, en tout cas la presse allemande, en a parlé comme le roi du porno. J'ai découvert ce jour-là donc, que cette personne était depuis 3 ans à la tête des plus gros sites pornographiques, donc YouPorn, Pornhub, d'autres studios qu'ils avaient rachetés aux États-Unis, tels que Brazzers ou Digital Playground. Et je n'avais jamais entendu parler de ce type. Et ce qui était assez intéressant de voir, c'est que beaucoup de gens dans l'industrie du porno n'avaient jamais entendu parler de ce type. Et je me suis dit, c'est assez curieux, si moi qui ai conservé des contacts avec cette industrie, je ne sais pas moi-même qui c'est, mais ça veut dire que le grand public... Encore plus, il ne sait absolument pas qui c'est. Je trouvais.
Oui, ça veut dire que c'est devenu un business très opaque.
C'est devenu un business opaque. Je veux dire, ouais. On sait à peu près qui est qui, on sait à peu près qui est derrière Facebook, on sait. Mais là, derrière ce business-là qui représente autant de fréquentation, je dirais qu'il compte autant dans le business d'Internet, j'étais extrêmement surprise que personne ne connaisse son nom.
Et alors, c'est quoi son surnom ?
Ah, c'est le journaliste du Die Welt qui disait que c'était une version cheap de Mark Zuckerberg.
D'accord, voilà. Ça le remet à sa place.
Ce que je trouvais.
Alors, une version cheap et un petit peu dangereuse. Dans votre documentaire, Ovidie, on découvre que sa société a milité contre le port de préservatifs sur les tournages des films porno.
Oui, en 2012, en Californie, il y a une loi qui a failli passer, qui a été votée, qui s'appelle la mesure B, qui était une loi qui visait à imposer le port du préservatif sur les tournages. Il y a eu une levée de bouclier de la part du milieu, il y a eu une campagne qui a été financée, on envoyait des acteurs faire des spots pour dire « Non, s'il vous plaît, votez contre cette mesure, parce que vous comprenez, sinon l'industrie du X va se délocaliser, va partir de Californie et va aller tourner là où ils auront le droit de tourner sans préservatif. » Et cette campagne, en fait, a été financée donc par la multinationale de Fabian Thielmann, qui déjà avait étendu son monopole sur l'ensemble de l'industrie du X.
Et qui a même créé des laboratoires d'analyse médicale juste pour son industrie. Pour quoi faire ? Pour masquer quoi ?
Ça, c'est une histoire assez complexe, en fait. C'était de façon assez indirecte, c'est-à-dire cette multinationale avait donc financé... un labo, bon, je vais essayer de la faire courte, mais c'est ce qui s'est passé, parce que la plupart des acteurs et des actrices, pour pouvoir tourner, sont obligés de passer ce qu'on appelle des full tests, donc tests HIV, hépatite, syphilis, etc., etc., pour pouvoir tourner. Or, il y a quelque chose qui est quand même assez inquiétant, quand on se dit qu'une entreprise a le monopole sur tout un secteur et détient... Je veux dire, a accès aux données médicales, détient un labo. On se demande pourquoi. Bon, déjà, ça représente effectivement de l'argent. Le labo peut représenter de l'argent lui-même, mais c'est quand même assez inquiétant de se dire, tiens, mais pourquoi ils tiennent absolument à contrôler toutes ces données ? Est-ce que c'est pour camoufler quelque chose si quelqu'un est contaminé ? À quoi ça sert ? Ça, je ne sais pas. Mais moi, ça me questionne.
Et ces labos ont fermé ?
Il y a eu quelques personnes quand même qui se sont opposées à ça, entre autres le labo concurrent, puisqu'il y avait 2 labos principaux à ce moment-là. Et puis au final, ça s'est réglé autrement.
Il y a une scène que vous montrez dans votre film sur la pornocratie. C'est un petit déjeuner avec une des actrices. Et vous la regardez et vous voyez que pour son petit déj, c'est un verre d'eau et des bonbons.
Ah oui, ça c'était complètement inattendu. Je lui dis, je vais te filmer pendant que tu te prépares avant d'aller à ton tournage. Et là, elle avale des bons becs avec de l'eau et elle me dit breakfast. Je lui dis, c'est ça ton petit déjeuner, mais pourquoi pourquoi tu prends que ça ? Parce que je me disais, mais elle va quand même passer la journée à tourner, il faut des forces. Elle me dit, ben non, elle me prend un air gêné et elle me dit, ben non, le sexe anal, ça marche pas. Et effectivement, aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est tellement intense que ça n'est même plus compatible avec l'ingestion de nourriture. Donc voilà, on en est à ce stade-là. De tout le temps que j'ai passé avec cette fille, c'est le moment qui m'a le plus brisé le cœur. C'est me dire, bon, elle part au boulot, elle va donner de sa personne pendant des heures, et elle part sans rien avaler, sans prendre de force finalement. Bizarrement, c'est ça qui m'a le plus retourné.
Bah moi aussi, et c'est un très beau documentaire que vous avez réalisé, une très belle enquête, Ovidie. Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe. À bientôt sur l'antenne RTL.
Merci Ovidie.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.